Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour le débrief national, le championnat national qui revient donc au programme avec le petit intermède Coupe de France de la semaine dernière. Là, ça y est, on rentre à nouveau dans le vif du sujet. C'était la 20e journée que vous avez vécu ce week-end. Et déjà, un premier, on va dire, gros coup qui s'est passé dans ce championnat national, puisque depuis la 8e journée, on avait trois clubs qui faisaient cavalier seul en tête et qui trustaient les places de promu. Et là, le trio de tête a changé pour la première fois depuis cette 8e journée. Et c'est le Nîmes Olympique. Ça a dû te faire plaisir, Jordan, puisqu'il se hisse sur le podium. Et du coup, c'est Rouen qui tombe du podium. Donc certes, c'est qu'à la différence de but par rapport à Nîmes. Mais bon, c'est déjà un gros coup, puisque ça faisait très longtemps que les positions étaient figées pour les trois premières places. C'était même détaché. Ils avaient creusé un trou avec le reste du peloton. Et là, c'est complètement comblé. Et Nîmes atteint le podium, Jordan.
Oui, c'est sûr. Bonsoir à tous. C'est sûr que ça fait plaisir de voir Nîmes Olympique dans les trois premiers. Après, comme l'a souligné l'entraîneur nîmois, ça peut apporter de la pression aux joueurs d'être sur le podium. Mais je pense que là, sur le match à Rouen, le prochain match, je pense qu'ils peuvent ramener des points et consolider leur troisième place.
Ah ouais, parce qu'en plus, le prochain match, c'est à Rouen. Ouais, exact, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais, là, c'est vrai que là, ça va être le résultat, le match direct, quoi, vu que c'est les deux clubs qui sont à égalité pour l'instant à la troisième place. Ah ouais, match, super match à suivre. Pour Nîmes, tu dis que ça va mettre un petit peu de pression aux joueurs, le coach dit ça, mais bon, à Nîmes, l'objectif, c'est quand même clairement de remonter en Ligue 2. Ils ont encore le statut pro, là, il faut pas végéter plus longtemps dans le championnat national.
Oui, c'est sûr, mais comme avant, tu vois, ils étaient dans le mieux tableau, voire un peu plus haut dans les six premiers. Ils n'avaient pas trop de pression, ils jouaient normalement, et c'est surtout beaucoup de jeunes dans l'effectif nîmois. Et l'entraîneur l'a souligné. Après, on verra bien avec les médias, mais ils sont habitués à la pression, et oui, ils visent la montée directement cette année.
Ouais, c'est vrai que t'as raison, ça va changer peut-être un petit peu dans les têtes, ça peut cogiter un petit peu plus côté Nîmois, et il faudra suivre ça dans les prochaines semaines, mais de toute façon, dès la prochaine journée, tu l'as souligné, il y aura ce gros choc. Allez, Rouen-Nîmes, ça sera pour la prochaine fois. On va donc revenir sur ce Nîmes-Fréjus-Saint-Raphaël, et donc là, la pression, ils ne l'avaient pas encore, puisqu'ils n'étaient pas encore sur le podium, et ils se sont défaits facilement de leurs adversaires 4-1.
Exactement. Un match très bien rondement mené par les Nîmois, à part en première mi-temps où sur les interviews on va l'entendre, mais un peu haché avec beaucoup de relâchement de la part des joueurs, mais ça a été bien géré au niveau tactique, et à la mi-temps ils se sont fait bien retrousser les manches, et après en deuxième mi-temps ça allait mieux, on avait plus de jeu et plus d'occasions franches du côté nîmois.
Ouais, on passe tout de suite aux interviews nîmois, et puis après je donnerai la parole à Thomas, ou tu voulais encore ajouter quelque chose?
Non, c'est bon, tu peux passer aux interviews.
C'était compliqué en première mi-temps, on n'était pas vraiment dedans, même si on menait 2-0, puis après il y a eu ce penalty où on n'est pas trop faute, on ne sait pas trop, donc c'est un match bizarre, et puis on s'est mis à l'abri en deuxième mi-temps, parce qu'on a gagné avant tout les duels, et c'est le plus important dans ce match.
En première mi-temps, j'en parlais, ouais, c'était très pauvre. Sur la deuxième mi-temps, on a été efficace, mais on n'a rien. On n'était pas supérieur à l'adversaire. C'est offensivement, on les a mis au fond. On a rééquilibré un peu au milieu, mais je pense que ouais, on n'a pas fait un grand match, tout simplement. Et le score est flatteur, pourvu que ça dure. Une chose, au jour d'aujourd'hui, faut quand même savoir que certaines personnes dans la première partie de championnat me reprochaient qu'il y ait trop de jeunes. Je suis désolé, hein, mais ce soir, heureusement qu'on avait les jeunes. Le seul problème, si on met des jeunes, c'est que certains n'ont pas fait le travail en première partie de championnat. Et ça, c'est une réalité. Un entraîneur ne change pas pour changer. Et s'il prend des jeunes, c'est que les pros, ou soi-disant pros, ils font pas leur boulot. Alors, moi, je veux bien, mais aujourd'hui, je suis pas Mourinho, mais ça y est. J'ai rien inventé, moi. J'ai seulement pris des jeunes qui ont été travaillés avec Jean-François Pien, qui fait du bon boulot, et voilà. Et puis, le petit salaire, c'est un bûcheron, mais il donne tout ce qu'il a. Après, vous avez le petit Ripard, il va se retrouver dimanche en 19 ans. Allez le voir, il va jouer en 19 ans. Voilà, c'est ça l'esprit d'un club. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez intérêt de gagner. Moi, je vous le dis, parce que si ce soir, on ne gagne pas, bah, je suis le roi des cons. Et c'est comme ça, le football. Le problème, c'est que les gens ne comprennent rien. Ils s'intéressent pas à ce que je fais, ils s'intéressent pas à ce que je fais avec Pien. Donc aujourd'hui, c'est bien beau. Mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui devraient s'intéresser un peu plus à comment on gagne, comment on fait pour gagner, comment on fait progresser, que de s'intéresser au classement. On avancera, et je pense que le Nîmes Olympique aura un avenir radieux. Mais si on reste toujours à se concentrer sur des résultats, on a gagné, on est sur le podium, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le petit Ripard, il est rentré, il les a secoués, il a marqué. Le petit salaire, bah oui, et il paye pas de mine, et puis voilà. Mais le problème, c'est que à Rouen, bah, il faudra gagner toujours. Mais comment, je sais pas. Et ce qui m'agace, c'est que moi, j'ai pas l'impression que le travail est valorisé. Il y a que les résultats qui et ça m'agace. Je trouve que le groupe progresse. Le groupe a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Voilà. Il y aura débat forcément. Après, si on prend nos statistiques. On a utilisé 27 joueurs sur la première partie de championnat et deux gardiens, 29 en tout. Est-ce que ça va se dérouler comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, on a cherché des joueurs qui sont venus au fur et à mesure. Moi, je pense que sur ce qu'on a montré ce soir, oui, il faut un joueur et surtout un cerveau et un mental. Mais ça, c'est pas dans un joueur, c'est collectivement. Moi, je pense qu'il ne faut pas se faire un avis sur un match. Moi, je crois qu'il faut être réaliste. On aura des suspendus, on aura, j'espère, pas trop de blessés. Mais je pense qu'on risque d'être léger. On ne peut pas perdre deux joueurs comme Correz et Sissan sans que ça soit neutre. Même si on a vu Adou à son avantage au milieu de terrain.
Ok, donc on a entendu Renaud Ripard dans le premier interview, c'était ça, Jordan?
Exactement, le jeune de 18 ans, Nîmois, sa toute première sélection en pro et devant sa famille, il a marqué son premier but après
on a entendu l'entraîneur.
Exactement, on a entendu l'entraîneur Forger donner sur son avis de match et être un peu pessimiste sur cette première mi-temps et plus optimiste sur cette deuxième.
Ouais. Et ensuite, donc, la petite info Mercato, enfin.
Exactement, les dirigeants nîmois sont en train de chercher, comme l'a démontré l'interview de Thierry Froger, un milieu de terrain capable d'avoir la tête sur les épaules, du sang-froid et un mental d'acier pour donner des bons ballons aux avants nîmois.
D'accord, mais on n'en sait pas plus, il n'y a pas de nom, pas de précision,
il n'y a pas de nom,
pas encore d'écho. Tu nous tiendras au courant dans les semaines à venir. On passe maintenant à Fréjus, Thomas. Donc Fréjus, bah, qui a malheureusement subi la loi du plus fort. Nîmes était carrément plus fort ce soir-là et Fréjus confirme ses faiblesses à l'extérieur.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, off. Ils sont encore irréguliers à l'extérieur, c'est catastrophique. Tout le temps des faits ou des matchs pas du tout comme ils font à domicile, complètement différents. Et puis en plus, il y a eu l'élimination face à Ajaccio le week-end dernier qui, je pense, leur a mis un bon coup sur la tête. Et là, à Nîmes, ben, ils ont un peu fait illusion la première mi-temps, puisque l'entraîneur de Nîmes disait qu'il n'était pas content de ses joueurs. Ce que Fréjus s'est un peu repris en fin de première mi-temps avec un but sur penalty de Fernandez. Mais sinon, après, Nîmes a repris le dessus et Fréjus s'est logiquement incliné. Comme tu dis, c'est le plus fort qu'il a emporté. Fréjus, je pense que, au vu de. Il faisait un bon début de saison, mais ils finiront milieu de tableau, je pense. Et face à Nîmes qui, quand même, fait une belle victoire, parce que Fréjus s'est un peu redouté, mais un peu moins qu'avant, mais quand même, ça restait une bonne équipe. Puis Nîmes qui leur encore le 4. Là. Les Nîmois reviennent sur le devant de la scène et Fréjus, comme je te dis, je pense qu'ils finiront pas le ventre mou, mais le milieu de tableau et que ça leur ira très bien.
Ouais, parce que.
Parce que pourquoi pas monter l'an prochain, ouais.
Ouais. Là, ouais, c'est vrai que c'est, je pense cette année, ouais, c'est vrai que ça semble quand même assez compromis. Bon, on sait que c'est toujours un petit peu fou, et puis là, on voit qu'il y a des équipes qui sont capables de raccrocher le wagon, bah, comme l'a fait Nîmes. Mais t'as raison, c'est vrai que Fréjus là sur Nîmes, du coup, ça leur fait 8 points de retard, puis ça en fait 8 sur Nîmes, 8 sur Rouen, sur Vannes 6. Donc ouais, c'est clair que pour jouer plus haut, ça va être compliqué. Et après, ouais, c'est vrai qu'ils pourraient finir la saison un petit peu. Il faudra quand même faire attention. Ils ont quand même que 7 points sur l'Uznac, et l'Uznac a, oui, un match, bon, en moins.
Oui.
Donc,
ah oui, dans le bas de tableau, tu veux dire.
Faut
qu'ils fassent gaffe à l'extérieur, quoi.
Ouais, bon, après, c'est clair que si à domicile, ils sont capables de rééditer des belles performances, comme quand ils ont disposé de Rouen là, avant la trêve, ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est encore insuffisant, quoi, pour vraiment viser plus
haut. Mmh, exact. C'est le constat de leur saison à l'extérieur, qui n'est pas encore finie, mais bon, c'est une constante qui revient assez souvent.
Ouais, parce qu'à
l'extérieur. L'extérieur, ouais, je sais plus. Je peux regarder les chiffres, mais bon, ça doit pas être folichon, quoi.
Ouais, à l'extérieur, c'est 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites. Ils sont 14e à l'extérieur, ouais. Ouais. Ouais, on comprend assez rapidement. Ok. On a parlé donc de l'équipe qui a pris la place sur le podium. On va parler donc de celle qui en est tombée. Red Star Rouen, donc on l'a dit, Rouen est tombé de son podium. Est bien battu donc par cette équipe du Red Star. Le Red Star pourtant qui était attendu au tournant parce que donc de nombreux observateurs promettaient même aux Audoniens un retour à la réalité un peu dure, puisque la semaine dernière, on sait, c'était le Stade de France, c'était l'Olympique de Marseille, et là il fallait se remettre tout de suite dans le boulot du championnat, le pain quotidien, j'ai envie de dire. Et pourtant, ça commençait pas de la meilleure manière pour les joueurs du Red Star, qui avaient titularisé pour cette occasion, pour la première fois à ce niveau, le jeune gardien Bobby Alain, seulement 20 ans. Et il démarrait pas la rencontre de la meilleure manière, puisqu'il avait pas encore touché le moindre ballon, que Schianchi pour Rouen ouvrait déjà la marque en nettoyant sa lucarne après à peine 40 secondes de jeu. Donc c'était vraiment un problème. Vincent Ducchianti, qu'on entendra tout à l'heure, disait c'est simple, on a eu un quart d'heure de retard, et pour parler donc de cette entame désastreuse de ces joueurs. Mais une fois qu'on a été là, ils ont été bien là. L'entraîneur de Rouen donc soulignait la bonne entame de ces joueurs, mais il leur avait dit, on écoutera également tout à l'heure, qu'à la mi-temps il faudrait pas baisser le pied parce que les joueurs du Red Star allaient revenir pied au plancher comme ils avaient joué dans cette seconde partie de première mi-temps. Et puis voilà, ce qui devait finalement arriver arriva. Les joueurs de Rouen qui rentrent moins bien dans cette deuxième mi-temps et qui finissent donc par craquer à deux reprises. Donc c'est d'abord Farid Bezioen qui égalisait à 12 minutes de la fin. Et puis finalement, au bout du temps additionnel, c'est le vétéran Laurent Gagné qui était rentré après l'égalisation du Red Star à la place de Steve Marley. Et qui délivrait son équipe du Red Star et apportait des points très très importants pour la suite du classement pour le Red Star. Ça nous donne au classement une équipe du Red Star donc qui sort de la zone rouge. Donc c'est après le succès, on va dire, la semaine dernière financier, parce qu'il n'a pas vraiment été sportif face à l'Olympique de Marseille. Et ben là, le Red Star s'est vraiment remis au pain quotidien en battant cette belle équipe de Rouen qui était quand même l'épouvantail du début de championnat. Et donc le Red Star avec 21 points qui sort de la zone rouge, même si il faut pas oublier quand même que beaucoup de clubs ont des matchs en retard, et notamment je suis en train de voir que les 4 clubs dans la zone rouge ont un match en retard. Donc c'est clair qu'ils peuvent encore se faire passer devant par l'Uznac, par Cherbourg, Besançon, l'Uznac ou Cherbourg, pardon. Et donc ça sera à suivre, mais bon, super nouvelle pour les joueurs du Red Star. On écoute donc, comme je vous l'avais promis, d'abord l'entraîneur de Rouen, donc qui réagit à cette contre-performance de son équipe.
Donc, on donne la pression à l'adversaire, et l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il a la tendance à revenir, et ce qu'il y a, c'est qu'il revient au deuxième temps avec un autre état d'esprit. Et toi, le problème, c'est que ça passe à l'équipe. Je pense que inconsciemment, les garçons, ils se sont dit ça va être fait, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, faites attention. Il va falloir être à l'action dès le début de la deuxième comme vous avez été en première. Et malheureusement, dès le départ, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'adversaire est présent et toi, tu es en réaction. Et le football, eh bien, quand on est en réaction, c'est difficile.
Et donc, après l'interview donc, de coach Garcin pour Rouen, Rouen d'ailleurs, on a pas, j'en ai pas trop parlé, mais Rouen qui pourtant bénéficie du retour de Endo de blessure et qui va faire du bien à cette équipe de Rouen puisqu'il aura pas mal manqué, même si Dugimont avait assuré pas mal l'intérim. Mais c'est vrai que c'était quand même un sacré buteur dans cette première partie de saison rouennaise, donc il faudra le suivre à l'avenir. Voilà, c'était pour parler un petit peu de Rouen. On écoute maintenant Vincent Ducanti, donc qui, comme je vous le disais, qui constate que malheureusement son équipe a eu un quart d'heure de retard à l'allumage.
On va dire que la première mi-temps, on est rentré au bout du quart d'heure, on avait un quart d'heure de retard. Même si j'étais pas content, à la mi-temps, voilà, on a donné 2-3 consignes, les joueurs se sont pris en main, ils ont fait ce qu'il faut. Ça, voilà, ça récompense encore. Le travail qu'ils font et on continue sur la lancée à domicile.
Puisque le Red Star à domicile reste sur 3 victoires consécutives face à Luznac, le Poiré Survie et donc Rouen. Depuis sa prise de fonction, c'est vraiment le gros changement au Red Star. À l'extérieur, on a encore du mal. Il y a eu certes une petite victoire à Colmar, mais on a toujours du mal. Mais c'est vrai que c'est à domicile et ça passera sans doute par là. Le maintien passera sans doute par là pour les joueurs du 93. Et voilà, je pense que c'était un objectif de Vincent Ducanti. Et donc la bonne spirale à domicile qui continue. On a parlé donc du gros changement au classement, avec donc Nîmes qui tombe du podium pour que le Red Star puisse y monter. On va parler des équipes pour qui le temps reste au beau fixe. Et on va parler, si le temps reste au beau fixe, on va parler de Niort, Clément.
Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes même, si je puis dire. C'est vrai que cette équipe de Niort voit des jours en bleu pour les Chamois. Une nouvelle victoire sur le même score que lors de leur premier match cette saison. Une victoire 2-1, certes. Très délicate, ils sont allés la chercher très très loin, les joueurs de Niort, et surtout à la 93e minute avec un coup franc dévié contre son camp par un joueur de Colmar. Mais c'est avant tout les 3 points qu'il faut retenir, et maintenant la marge qu'ils ont sur le 4e Rouen, on en a parlé, donc maintenant 7 points d'écart sur Rouen, donc première équipe à pouvoir monter sur le podium. Et du coup Niort qui entre guillemets va pouvoir se concentrer sur faire une fin de saison intéressante et marquer toujours autant de points, et un parcours en Coupe de France qui peut s'annoncer assez sympathique à suivre. Et d'ailleurs le prochain match ça sera contre Orléans en Coupe de France, donc il y a encore une belle carte à jouer pour cette équipe de Niort.
Ouais, à domicile en plus face à Orléans, donc
c'est ça,
c'est tout bénef. Sur le match, ouais, tu disais donc cette la délivrance qui est venue tard. Pourtant, Niort était rentré très bien dans ce match avec cette ouverture du score dès le début du match.
Et oui, tout simplement un super but de Jimmy Roy qui intervient dès la 8e minute, mais pas le temps de se réjouir pour cette équipe de Niort puisque Meyer égalisait immédiatement à la 9e minute, donc immédiatement, oui. Et derrière, on a dû attendre la toute fin du match avec un match assez haché. On a vu Frédéric Bong se faire exclure tout simplement à la 93e minute. Et c'est sur l'action qui suit que Mouamadou Diaw tire le coup franc de la victoire. Un coup franc assez excentré qui tire finalement direct en espérant une déviation de la tête d'un de ses partenaires. Et finalement, un défenseur colmarien, dont je n'ai pas réussi à avoir le nom, peut-être que les journalistes ont préféré cacher son nom, toujours est-il qu'il dévie le ballon dans ses propres filets, et Niort qui donc marque 3. 3 points ce samedi soir.
Clément, voilà ce que je voulais te demander. Oui, à Niort, on a l'impression que tout leur sourit, puisque tu disais exclusion d'un joueur dans les arrêts de jeu alors qu'ils en sont qu'à un partout. Et au bout du temps d'additionnel, là, un petit peu comme au Radstar, c'est la délivrance avec ce coup franc et la réussite totale, quoi. On a l'impression que plus rien ne peut leur arriver au Niortais.
Bah, est-ce qu'on peut dire qu'ils commencent déjà à avoir une chance de champion? Je sais pas, c'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Déjà contre Beauvais, l'égalisation était venue à la 81e minute, alors que Beauvais avait le match presque bien en main, malgré tout à 10 contre 11. Mais c'est vrai que du côté de Niort, il y a beaucoup de choses qui sourient un peu plus qu'avant, un peu plus que la saison passée et surtout un peu plus que lors du début de saison. Et j'ai envie de dire, autant que ça continue pour Niort, hein, mais c'est vrai que des victoires, je dirais un petit peu à l'arrache, ça va être compliqué tout au long de la saison. Le prochain match, ce sera contre l'Uznac 17e, donc il y a largement moyen là d'obtenir une victoire un peu plus large pour Niort, quoi.
Eh ben, je vous arrête un petit peu, messieurs, on va arrêter un petit peu de parler de championnat national et on va retrouver donc ce rendez-vous quotidien pendant l'Euro avec Luzari pour son petit flash, donc flash hand, flash sport, voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure et d'ici là, place au hand et la parole est à toi, Luzari. Ok, merci Luza, et donc nous on revient au championnat national. On enchaîne avec une autre équipe qui réussit pas mal dans ce championnat, c'est cette équipe d'Épinal. Moi, si on m'avait demandé mon avis, et puis je pense que vous n'allez pas me contredire, si on m'avait dit qu'une équipe allait tomber du podium dans les trois qui faisaient cavalier seul en tête dans ce début de championnat, j'aurais plutôt voté pour cette équipe d'Épinal. Finalement, Nîmes prend la place de Rouen. Donc, cette équipe d'Épinal qui monte de CFA, mais qui n'a pas loupé son rendez-vous, sa première rencontre officielle en 2012, puisqu'ils étaient privés de Coupe de France. Et donc, face à l'AS Luznac, grâce à deux buts signés de Julien Jaillère, et malgré le froid qui régnait samedi soir à la Colombière, les partenaires d'Abdella Azbabou, notre petit chouchou du débrief, si vous avez suivi nos aventures depuis le début de la saison, n'a pas mis longtemps pour réchauffer tout le monde. À la 17e minute, c'était Julien Jailleur qui était à la conclusion d'un mouvement d'école, donc qui avait été initié côté gauche par Gaëtan Bussmann, donc l'ancien Messin, qui est donc l'une des trois recrues d'Épinal, pardon, c'est ce que je voulais dire. Donc avec notamment Sandy Payot, Clément, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière en fin d'émission, mais est-ce que tu te rappelles de ce joueur, Sandy Payot, formé à l'Olympique Lyonnais, et on en avait dit le plus grand bien à cette époque. Il avait même joué dans les équipes de France de jeunes.
Et oui, il avait été formé à l'OL et avait même été transféré l'année d'après à Grenoble, où il était devenu un titulaire essentiel de la défense grenobloise avant que, bien sûr, tout s'effondre pour Grenoble.
Ouais, mais c'est vrai qu'il avait joué en Ligue 1 avec Grenoble. Ouais, t'as raison, je m'en rappelais plus, mais ouais, c'est vrai, il avait joué en Ligue 1 et là donc il était toujours à Grenoble, mais bon, comme Grenoble a déposé le bilan et donc là en CFA2 il a été libéré et donc s'est engagé avec Épinal. Donc voilà, pour vous dire que l'autre recrue, Gaëtan Bussmann, déposait donc le ballon sur la tête du goléador spinalien Julien Jaillère. Et puis donc ça permettait donc d'ouvrir le score face à cette équipe de Luznac. Ensuite donc le calme revenait et donc on sentait à nouveau le froid prendre les spectateurs de la Colombière. En seconde période, les Luznacois tentaient un petit peu de revenir au score, mais Olivier Robin et ses défenseurs réussissaient à préserver l'avantage acquis par Épinal. Et finalement, Fabien Tissot, le coach spinalien, amenait un petit peu de 109 avec les rentrées de Valentin Fauqui et de Romain Schuller, et c'est ce dernier qui délivrait une merveille de coup franc pour l'inévitable Julien Jaillère, qui enlevait donc tout suspense à cette fin de rencontre et donc scellait la marque à la 83e avec ce score de 2 buts à 0. Au final, ça continue en tête et on aura donc le prochain rendez-vous vendredi 20 janvier. Ça sera la réception de l'équipe de Beauvais. derrière tout ça, c'est des équipes comme Vannes, comme Ajaccio, bah, qui étaient dans la roue de Nîmes dont on parlait en, en début d'émission, mais qui, eux, n'arrivent pas à raccrocher le bon wagon. Et toujours pareil, pour des problèmes de, d'irrégularité, Ajaccio bah, n'a pas été capable de, d'aller chercher quelque chose à Bayonne, alors pourtant ils restaient sur des vraiment superbes performances, et notamment leur victoire au Paris FC. Là, ils sont battus à Bayonne. Bayonne qui est dernier de ce championnat national. On connaît la situation de cette équipe. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, cette équipe d'Ajaccio qui avec ses valeurs, ben, on a envie de dire bien cliché, mais bien guerrière, etc., qui est arrivé à aller décrocher des matchs et aller chercher des points là où on les aurait pas attendus. Et du coup, à remonter dans ce classement au point d'être devenu un outsider, on voit bah, que la marche était sans doute encore un petit peu trop haute pour les joueurs ajacciens. Et là, et bah, est-ce qu'ils se sont rappelés à l'ordre justement à Bayonne ? Je sais pas, ça sera à suivre dans les semaines à venir. Une autre équipe, bah Thomas justement, qui a aussi du mal à être régulière, c'est cette équipe de Vannes qui n'a pu faire mieux qu'un petit match nul, j'ai envie de dire, à Martigues.
Encore contre performance pour les Vannetais, qui, oui, comme tu le dis, ont fait match nul à Martigues. Pourtant, ils avaient encore fait ouvert le score. Pardon. Ils se sont fait reprendre juste avant un quart d'heure avant la fin du match. Donc encore une contre-performance, et au classement ça s'échappe pas trop devant, mais il y a New York qui est largement devant, sinon après ils sont qu'à 2-3 points de la seconde place où il y a Épinal. Donc c'est pas trop mauvais, mais bon, ça commence à faire beaucoup de contre-performance. Ils ont quand même fait 6 matchs nuls. Je pense qu'à l'extérieur, il y en a pas mal aussi. Je vais dire ça comme ils sont à l'extérieur. C'est assez inquiétant, ouais, pour les Vannetais.
Bah ouais, c'est...
De pas concrétiser. Ou à l'extérieur, c'est 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Donc,
Ouais. C'est sûr que c'est pas assez pour être promu. Ce qui est d'autant plus rageant, j'ai envie de dire, pour les Vannetais, c'est que ces derniers temps, on disait que c'était en amélioration. Ils avaient fait un gros mois de décembre, si je me rappelle bien. C'est ça, avec des victoires face à Fréjus et face au Red Star. Ils avaient été battus à Rouen, mais bon, Rouen, c'est quand même pas n'importe qui. Ils étaient allés même gagner à Besançon. On avait dit, on avait souligné que si Van allait prendre des points à l'extérieur, ça pouvait compter dans cette phase.
Ça la donne, ouais.
Et là, on voit que malheureusement, il en reste encore du chemin à parcourir, puisque donc à la 75e minute, ils se sont bien fait rappeler à l'ordre par Stéphane Biacolo. Comment on vit ça du côté Martégal, Jordan ? C'est un point plutôt inespéré ou on est déçu parce qu'on s'attendait à mieux, puisque Martigues, c'est aussi un peu une équipe qui a flirté avec ce milieu de tableau et qui pourrait finalement nourrir également des ambitions dans ce championnat un peu fou.
Non, il nourrit aucune ambition, tu peux le voir aux séries en cours, hein, c'est 10 matchs sans victoire pour les Martégaux. Et sur le site, on peut voir que c'était vraiment la bonne affaire du week-end pour eux, avec comme citation, tout le club attendait une réaction pour bien débuter 2012, et on a retrouvé une équipe de Martigues combative, pleine d'envie, qui a fait preuve de caractère dans l'adversité. Donc ça a confirmé contre Fréjus, mais voilà, c'est vraiment une bonne affaire pour Martigues, et espérons que ça va pouvoir lancer une série positive pour eux qui sont 16e de ce championnat.
Ah ouais, c'est vrai, je me rappelais pas que
15e, ouais, ils sont les vacances sont deux points de l'USNA, quoi.
On fait leur
chaud, ouais.
On avait un petit peu noyé ma mémoire, mais oui, t'as raison, Martigues est resté sur 4 victoires consécutives, et t'as dit combien de matchs
10 matchs sans victoire.
Ah ouais, d'accord.
C'est pas 4 victoires.
4 défaites, ouais, pardon.
4 victoires, ils ont été plus.
Non, 4 défaites, ouais. Ouais, 4 défaites et pas des moindres, 10 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Ouais, donc là, tu dis qu'on est plutôt content. C'est plutôt un point inespéré. C'est de cette manière-là qu'on le ressent côté Martégal.
Exactement.
Juste Jordan, pour conclure sur Martigues, une petite nouvelle, est-ce que tu vas me la confirmer, J'ai vu qu'il y avait un joueur de Martigues qui avait quitté le club, j'ai pas trop compris. Soki Nzinga, je lisais ça, qui donc aurait quitté le club de Martigues alors qu'il était apparu quelques fois cette saison, une quinzaine de matchs. Et il aurait quitté le club apparemment pour être laissé libre, quoi. C'est même pas un transfert. Est-ce que tu avais des échos toi là-dessus ou...
Ouais, je sais qu'il a quitté le club il y a pas longtemps. C'était vraiment la surprise générale de ce joueur part, car bon, c'était quand même un joueur qui pouvait faire du banc à cette équipe qui en manque. Et ouais, voilà, un joker. Et franchement, je suis étonné, mais après je sais pas pourquoi il est parti. Parce qu'il a signé dans aucun club, justement, j'ai regardé et...
Ouais, et puis en plus, comme tu dis, c'est vraiment à la surprise générale. Il semblait pourtant pas... Enfin, on voyait pas de mal-être sur lui. Alors, bah, est-ce que c'est des problèmes personnels? Je sais pas, on sait pas trop. Mais c'est vrai que là, ouais, du côté de Martigues, c'est un petit peu l'énigme. On comprend pas trop, non? C'est ça?
Ouais, voilà. Après, c'est une résiliation de contrat, donc on sait pas justement ce qui s'est passé et peut-être qu'on aura des infos d'ici dans 2 semaines pour les autres matchs, mais je sais pas vraiment. Franchement, je suis un peu abasourdi par ça.
Ouais, ok. Bah, on vous tiendra au courant sur les prochaines semaines, donc de si on en sait plus sur l'avenir de Soki Nzinga, donc ben, maintenant l'ex joueur Martégal. On enchaîne donc avec d'autres équipes un petit peu qui flirtent avec le milieu de classement ou la zone rouge, et on va parler de Orléans qui recevait Beauvais. Donc on passe au match de notre équipe partenaire, mais bon, qui malheureusement a été défaite du côté d'Orléans. Ils avaient déjà été défaits au match aller, on s'en rappelle, en début de saison. Vous l'aviez suivi sur notre antenne, avec donc cette belle victoire d'Orléans à Beauvais, 3-1, avec le triplé de Kevin Lefex, dont on se rappelle sans doute du côté de Brisson. Et ben là, les Orléanais, certes sans but de Lefex, mais ils ont quand même remis ça. On parle côté Orléanais d'une rencontre parfaitement maîtrisée, parfaitement gérée, alors que côté Beauvaisien, le courrier Picard, pardon, évoquer ben, une rechute après 7 matchs sans défaite, et donc ben, l'équipe de Beauvais ne décolle pas et reste ben, particulièrement engluée dans cette fin de classement. Pourtant, en début de match, même si les joueurs beauvaisiens n'avaient pas trop joué de compétition, puisqu'on sait que leur match à Épinal a été reporté le week-end dernier et qu'ils étaient éliminés de la Coupe de France, au contraire des Orléanais, donc qui avaient joué 120 minutes pour venir à bout de Clermont en Coupe de France, ben, malgré donc le manque de temps de jeu ces derniers temps des beauvaisiens, c'est eux qui rentraient le mieux dans la partie. Et une tête de Redel passait juste au-dessus de la barre de Renault, puis la volée de Tribault était bloquée par le gardien orléanais. C'est Orléanais justement bah, qui ouvrait le score sur leur première occasion, comme quoi quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Et c'est Insou qui délivrait un superbe ballon à Mangdion, le joueur expérimenté de cette attaque orléanaise, qui donc lobait le gardien d'une demi-volée à l'angle de la surface. Un but, une merveille, vraiment, je vous le conseille si vous n'avez pas vu la vidéo. Si vous avez l'occasion de le voir, vraiment un super but donc de Mangdion qui permettait aux Orléanais d'ouvrir le score à la 32e. Ensuite, c'était Orléans qui prenait un petit peu le dessus. Mangdion servait d'abord Enzif, et donc c'était un petit flottement dans le camp beauvaisien. Gouget donc devait s'interposer à 2 reprises devant Enzif, donc une première fois bien servi par Mangdion à la 36e, puis une frappe croisée qu'il fallait repousser à la 42e. Donc Enzif donc qui était particulièrement remuant face à son ancienne équipe, puisqu'on se rappelle qu'il y a encore pas si longtemps il évoluait sous les couleurs picardes. Donc voilà, c'est tout pour la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est les jaunes et rouges d'Orléans qui rattaquent pied au plancher. C'est d'abord Mangione qui sert Darcy, qui une première fois, qui malheureusement est devancé par un défenseur. Non, c'est ce même Mangione, oui, sur un corner, ne sert Darcy qui ne cadre pas sa tête. Et puis la troisième passe donc de l'attaquant orléanais, elle est décisive. Là, il sert parfaitement Enzif, qui cette fois remporte son duel face à ses anciens partenaires et bat donc Gouget et donne donc un avantage de 2-0 à cette équipe orléanaise. Les Beauvaisiens vont bien se procurer quelques occasions en fin de match. Un coup franc de Radas est bien capté par Renault, puis après des frappes de Tribault hors cadre à la 75e et à la 88e. Beauvaisien, on évoque un pénalty qui aurait peut-être pu être sifflé quand Farsan était accroché à l'entrée de la surface de réparation par de l'Anglais. Tout le clan beauvaisien réclamait un pénalty, mais le juge de touche semblait leur donner raison, pardon, mais l'arbitre principal n'avait accordé donc qu'un coup franc. Donc on regrette ça, mais bon, de toute façon, ça ne leur aurait permis de revenir qu'à 2-1, et ça n'aurait de toute façon pas suffi. Beauvais devra bel et bien batailler en 2012 pour continuer à s'éloigner de la zone rouge, alors que côté orléanais, on a fait le boulot en championnat, et maintenant on attend juste à faire de même en coupe face à Niort, dont nous a parlé du match de la rencontre à Niort, pardon, dont nous a parlé tout à l'heure Clément. Allez, on parle d'autres équipes qui malheureusement n'avancent pas trop dans ce championnat de national. Notamment, on va parler de Cherbourg qui est relégable et qui a été battu par le Poiré-sur-Vie ce week-end. Le Poiré-sur-Vie donc qui est allé s'imposer de belle manière de 2-1 à Cherbourg. Clément.
Ah oui, un match pas facile des deux côtés. Le Poiré-sur-Vie qui cherche à marquer le maximum de points puisque c'est assez compliqué. Ils sont vraiment dans le ventre mou et pas loin de la zone de relégation. Avant ce match, à seulement 24 points, donc à savoir 4 points devant l'Uznac. Donc c'est vraiment pas facile pour le Poiré-sur-Vie. Et de l'autre côté, Cherbourg qui est donc, comme tu le disais, relégable. Et le Poiré-sur-Vie qui s'en sort donc plutôt pas mal sur ce match. C'est vrai que c'était pas facile et du coup une victoire, je dirais, méritée à la vue du match. C'est vrai que cette équipe du Poiré-sur-Vie a été méritante et a failli se faire surprendre en fin de match. Toujours est-il qu'ils ont réussi à tenir et la très bonne opération puisqu'ils se replacent tout simplement à la 11e place de ce championnat, égalité de points avec le Paris FC et Fréjus Saint-Raphaël. Et donc, par exemple, une petite longueur derrière Colmar, Quevilly et Orléans, on peut constater déjà qu'il y a tout simplement 7 équipes en 3 points, même pas, et 6 équipes en 2 points, même pour être plus précis. Donc, un véritable ventre mou, comme tu le disais. Et d'ailleurs, à propos de ce match, on peut écouter la réaction de Steven Pinto Borges, le très jeune milieu de terrain de cette équipe de Cherbourg.
On sait quand on est en bas, c'est souvent comme ça, hein, les événements ils sont dans notre faveur, on a eu un peu tout, mais bon après il n'y a pas de secret, il ne faut pas dire que c'est que la faute d'impatience, tout ça, donc on est mauvais dans le des matchs, et donc on est puni par le but. On serait premier du classement, bien sûr qu'on ne prend pas ce but, mais là voilà, quand on est mauvais dans le des matchs, on paye cash, et puis voilà, après derrière on a plus d'occasion, mais bon eux aussi, donc non, c'est juste qu'on est que boulot.
Donc voilà, Steven Pinto Borges qui évoquait ce but en tout début de match. C'est vrai que Gazo avait ouvert le score dès la 4e minute. Et un peu pareil en deuxième mi-temps, Das Neves qui marque 4 minutes après le retour des vestiaires. Donc le Cherbourg qui devra être plus attentif face à l'Uznac en match en retard le week-end prochain.
Ouais, c'est vrai que la Coupe de France, ça va nous permettre de mettre un petit peu le calendrier à jour. Ouais, t'as raison, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui ont des matchs en retard, donc ça va nous permettre donc de jouer ce Luznac Cherbourg, également Épinal Beauvais. Ouais, c'est ça. Je vérifie en même temps, pardonnez-moi. Donc ouais, Luznac Cherbourg, tu nous disais. On aura le droit aussi à. Oui, Épinal Beauvais, donc qui aura lieu ce vendredi à 19h. Pour finir cette émission, on va quand même évoquer un petit peu le derby parisien. avec le Paris FC qui a battu Créteil 1-0. La bonne affaire pour les joueurs du Paris FC qui restaient pas forcément sur une belle sur une de belles performances pardon et là donc avec un match sérieux comme l'évoque Alain Mboma, ils ont réussi à battre Créteil. On écoute tout de suite l'entraîneur parisien.
On a eu un match qui a été engagé d'entrée, tout comme Créteil, mais je pense que sur les 20-25 minutes, on a eu quand même l'ascendant dans beaucoup de domaines. On a incompréhensiblement baissé le pied sur la fin de la première partie. Créteil a eu une ou deux situations et s'est armé dans la confiance. Nous, on a fait le dos rond. Sur la seconde période, toujours avec un bon coup de rythme dans un match engagé, on a eu l'efficacité de mettre un beau but sur un coup de pied arrêté. Et après, on a fait encore une fois le dos rond, on a courbé les chines sans jamais rompre. Et bravo aux joueurs parce que physiquement, c'était pas évident. On sent que Créteil avait appris avant nous, qu'ils avaient un match de Coupe de France la semaine dernière. En termes de rythme, ils étaient beaucoup mieux que nous, ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça que je félicite d'autant plus les joueurs que sur cet aspect-là, on a su rester solide.
Ouais, rester solide, comme il le dit bien. C'est vrai que pour le Paris FC, ça peut être une victoire importante parce qu'ils ont pas dominé, ils ont fait le dos rond, comme il le dit bien. Et ça peut être des victoires qui forment. Et c'est vrai que l'équipe parisienne a besoin de confiance dans cette fin de saison et ça peut leur faire beaucoup de bien. Côté Jean-Luc Vasseur, qui lui donc dit que Créteil était venu là pour chercher des points et même peut-être plus. Ils ont eu quand même des belles situations. Il évoque quand même un terrain délicat qui a nivelé sans doute les valeurs et qui a expliqué donc un jeu assez direct.
Un derby, mais encore une fois, un derby est certainement un match encore plus engagé. Voilà, ça a été. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un round d'observation des deux équipes qui ne voulaient certainement pas prendre de risque derrière pour ne pas se mettre en difficulté avec ce terrain qui était compliqué et puis par rapport aussi à son adversaire.
Ah non, j'espérais mieux.
J'espérais mieux. En ayant concrétisé quelques occasions consacrées tant en première qu'en deuxième, je pense qu'on méritait mieux. On méritait beaucoup mieux. Maintenant, c'est un coup du sort. Sur un terrain qui était quand même délicat et qui a nivelé certainement le rapport de force, parce que le Paris FC, je pense qu'il n'était pas forcément à la fois dans une bonne dynamique et puis à la fois avec des joueurs absents. Et puis nous qui étions, on dirait, pas trop mal avec la Coupe de France, je pensais que ça ferait une bonne dynamique. Maintenant, on n'a pas pu concrétiser nos occasions et puis on se retrouve avec plus d'occasions qu'eux, mais avec un score en notre défaveur. Le PFC avait une densité de joueurs importante, donc c'était pas propice. Le terrain nous a pas rendu service. Et en face, on avait une équipe valeureuse, organisée et compacte qui nous a posé quelques problèmes.
Un match plaisant.
Bon, je trouve pas. Non.
Pour les spectateurs, je parle.
Ah, je sais pas, pour les spectateurs peut-être, mais ça a été un jeu très 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 direct. Donc voilà, si les spectateurs aiment bien du jeu direct, bon, peut-être qu'ils vont apprécier. Mais en ce qui me concerne, c'était moyen, très moyen. Bon, là, je suis assez déçu de la prestation, pas de la prestation, mais du résultat. Donc, franchement, la coupe, oui, on va y penser à partir de lundi, mais c'est une cerise sur le gâteau, la coupe. C'est pas un objectif. Aujourd'hui, on voulait faire mieux dans le match retour. Bon, on démarre avec une défaite. C'est à la fois rageant et frustrant.
Et oui, et Jean-Luc Vasseur, qui j'avais oublié d'en parler, évoque également aussi la Coupe de France le week-end prochain avec la réception de Bordeaux qui est bien revenu en plus dans la Ligue 1, donc ça va être un match, une cerise sur le gâteau vraiment, face à une des belles équipes qu'on a dans le championnat français. On va conclure l'émission, Clément. Alors non, j'avais juste une petite info transfert pour vous dire que à Créteil. Est prêté donc par Châteauroux, donc l'ancien attaquant Castelrossin qui rejoint donc les Créteil Lusitanos en prêt jusqu'à la fin de la saison et donc il portera le numéro 12. Donc voilà, un attaquant de plus pour venir aider les Cristoliens dans la finition et donc qui rejoint pourtant un secteur avec déjà pas mal de joueurs, mais pas mal de blessés. On sait notamment des joueurs comme Chigiluco qui n'ont pas vu apparaître à de nombreuses reprises, toujours des petits problèmes de blessures pour l'attaquant francilien. On conclut donc l'émission, Clément, avec une équipe qui, on aurait pu penser au début de la saison qu'elle aurait pu faire un petit peu mieux, même si on pensait qu'elle allait rentrer dans le ventre mou. Et là, elle y est plus que jamais rentrée, puisque donc Quevilly n'a pas été capable de gagner ce week-end.
Et surtout que lors de notre débrief de mi-saison, non du premier trimestre plutôt, on avait dit que cette équipe de QI devait faire attention au relâchement. C'est vrai que c'est une donnée qui avait été importante à souligner il n'y a pas si longtemps que ça. Certes, depuis la tendance est un petit peu meilleure pour QI. Toujours est-il que là, il n'y a pas énormément de points qui ont été pris. Quand on regarde, lors des 5 derniers matchs, il y a eu tout d'abord 3 défaites contre le Paris FC, Épinal et Niort, qui sont certes des équipes au-dessus de QI, mais qui malgré tout étaient à leur niveau, je parle tout simplement au niveau du classement. Et là, depuis, il y a eu une victoire contre Bayonne. Et surtout donc le match nul face à Besançon ce week-end, donc QI qui malgré tout reste engagé en Coupe de France et qui va jouer donc le week-end prochain, donc qui va donner un match assez intéressant à suivre. Mais en championnat, ça a ramé un petit peu face à cette équipe de Besançon qui a réussi à égaliser peu après le retour des vestiaires. Et c'était un match assez compliqué pour Besançon qui a vu son gardien Willy Mayens se faire exclure dès la 39e minute. Et le gardien remplaçant Arnaud Maillot qui a été obligé de prendre l'intérim tout au long de la deuxième mi-temps. Et qui, ma foi, à mon avis, est un des hommes du match puisqu'il a réalisé 2 belles parades. Et vraiment, c'est ce qu'il a fallu à cette équipe de Besançon. Et QI, donc, qui avait marqué le but par l'intermédiaire d'Anthony Lope dès la 10e minute. Et on avait vu un début de match vraiment à 100 à l'heure avec un poteau de chaque côté. Et du coup, le match vraiment qui a été plaisant à voir. Et je pense que tous les spectateurs qui étaient à ce match-là ont dû se faire plaisir. Malheureusement, on aurait pu espérer un peu plus de buts d'un côté ou de l'autre. Mais à mon avis, le match nul convient un peu plus QI que Besançon. Puisqu'à l'heure actuelle, Besançon reste donc relégable à la 19e place, à savoir 4 points derrière le Red Star, tandis que Quevilly est dans le ventre mou dont je vous parlais tout à l'heure, avec 28 points. Et ça va être très dur d'entrevoir une montée, puisque Nîmes se situe maintenant 7 points devant les joueurs de Quevilly. Et surtout, la bonne dynamique, c'était plutôt en début de saison, là c'est de plus en plus compliqué.
Ouais, dans ce que tu disais, QI, c'est quand même plutôt sur le haut du ventre mou.
Oui, mais sur le haut du ventre mou, ça veut dire simplement un point au-dessus, du bas du ventre mou, donc c'est très serré.
Ouais, c'est vrai. Bon, après, on a quand même une petite série d'équipes à 22-23 points. Voilà, on a été quasiment complet sur cette journée de championnat. On relèvera aussi que Bayonne a pris 3 points importants dans cette lutte au maintien en battant cette équipe d'Ajaccio. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler notamment Coupe de France avec plusieurs clubs. On en a parlé la semaine dernière engagés encore dans ce championnat. On va aussi remettre un petit peu les compteurs à zéro et le calendrier à jour surtout. Avec quelques matchs en retard et notamment donc Épinal Beauvais et l'autre match Clément, si tu peux m'aider,
Cherbourg-Luznac Cherbourg plutôt.
Ok, merci. Oui, Cherbourg-Luznac qui aura lieu samedi. Voilà, on va juste conclure. Je vais vous donner quelques petites infos pour vous parler d'Épinal qui a certes gagné de belle manière ce week-end. On l'a évoqué. On évoque aussi côté Épinal deux joueurs qui ont eu beaucoup de chance. Mais là, ça n'a rien à voir avec le sport. Aliou Dembélé et Joseph Mendez qui eux auraient pu dire adieu au football, voire à la vie. Il y a eu un gros accident de voiture vendredi dernier. Donc certes, ils ne jouaient pas, mais ils s'en sont tirés quasiment indemnes de simples coupures aux avant-bras, on évoque. Donc ils devraient être de retour très rapidement avec beaucoup de chance pour ces joueurs-là. Espérons que la chance continue également pour cette équipe d'Épinal. Clément, t'avais aussi deux petites infos ?
Et oui, du côté de Niort, on pense, entre guillemets, à l'avenir, mais surtout à se renforcer pendant ce mercato. On avait vu quelques petits soucis en défense centrale, notamment avec les absences de Konaté ou alors des latéraux comme Ledzelter ou Bernard durant le début de saison. Encore que Quentin Bernard a joué tous les matchs, je m'excuse. Toujours est-il qu'on cherche un défenseur central et ce matin à l'entraînement on a pu voir deux nouveaux visages. En l'occurrence Pierrick Cross qui pour l'instant joue à Saint-Étienne et Yvan Erichaud qui lui joue du côté de Monaco. Donc deux jeunes joueurs de 20 et 21 ans qui pourraient tout simplement rejoindre cette équipe niortaise qui comprend déjà dans ses rangs beaucoup de très très jeunes joueurs entre 20 et 24 ans, ce qui peut être quelque chose de très intéressant si l'équipe venait à monter en Ligue 2, donc pourquoi pas.
Ouais, surtout de la saison prochaine, surtout senior, retrouver cette Ligue 2 tant désirée, et surtout ça semble plutôt pas mal parti. J'avais une dernière info sur le Red Star. Le Red Star, donc on a dit qu'il avait gagné, mais malheureusement qui a perdu Abissono, qui s'est blessé aux adducteurs à l'entraînement vendredi dernier. Et le joueur donc serait out 3 semaines, mais les adducteurs, on sait que c'est des blessures quand même assez compliquées. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis je vous donne rendez-vous pour ma part dans le débrief la semaine prochaine dès 20h. Et surtout, d'ici là, bonne Coupe de France et bon match en retard pour le championnat national. Allez, au revoir à tous.
Et n'hésitez pas à écouter notre émission de ce soir, le Vélo Tour qui arrive pour sa deuxième édition. À tout à l'heure.